RCI. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 5h.
Olympia de Paris, Laurent Petit-Guillaume vous retrouve en tête-à-tête avec Michel Jonas.
Bonjour. Bonjour à tous. En octobre dernier, il était à l'affiche de la pièce de théâtre La Famille de Samuel Benchetrit au théâtre Édouard VII à Paris, juste à côté de l'Olympia. Et en même temps sortait un nouvel album revisitant ses chansons les plus connues dans un esprit rhythm and soul. Bref, c'était vraiment l'occasion de le recevoir dans les coulisses de l'Olympia. Alors Michel Jonas, pour commencer, je lui ai demandé quel était le premier artiste qu'il avait vu sur scène ici.
La première fois que j'ai été au spectacle, c'est parce que mon père m'a pris par la main. J'étais jeune, mais j'étais pas encore ado. Il m'a pris par la main, il m'a dit « Viens, je vais t'amener voir quelqu'un qu'il faut absolument que tu vois. » Et c'était Edith Piaf. Et je me rends compte qu'il y a de moins en moins de gens qui ont vu Piaf sur scène. Je l'ai vu, Piaf, sur scène. Et c'était ici. Donc c'était...
C'était à l'Olympia ?
Oui. C'était un truc qui m'a vraiment profondément marqué. C'était pratiquement le premier spectacle que je voyais. Et cette
genre
force...
À quel âge
je me rappelle 10, plus, c'était 12, ce spectacle. Elle était déjà, elle commençait déjà à avoir un petit peu de mal à marcher, je me rappelle. Elle mettait un certain temps à arriver jusqu'au micro. Elle se plantait devant le micro, elle faisait un minimum de choses avec ses mains. Mais quand la voix sortait, ça remplissait la salle. Et donc, pour moi, si vous voulez chanter, c'est être sur une scène. Voilà. Et écrire des chansons, composer, les enregistrer, etc. Le but, c'est la scène. Parce que c'était ça pour moi, de chanter. Et puis, alors j'en ai plein des souvenirs. Mais ça, c'était le premier et très important. Très important.
Alors vous avez débuté dans le monde de la musique en tant que musicien, clavier, dans un groupe qui s'appelait Vigon. On est au milieu des années 60. Est-ce que vous rêviez qu'un jour, il y aurait votre nom, prénom et nom sur cette façade de l'Olympia connue dans le monde entier maintenant, en lettres rouges ? C'était un but ?
Non, c'était pas un but, mais quand je l'ai vu, parce que c'est arrivé, effectivement, je l'ai pris en photo, et je me suis dit, mince, quand même, ça y est, quoi. Je suis là, dans ce truc où j'ai vu tellement de gens incroyables. Parce que si je dois continuer à dire tout ce qui m'a marqué ici, Brel. Je voyais Brel tous les soirs.
Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, ça devient...
Il y avait à l'Olympia, au fond de l'orchestre, ce qu'on appelait le promenoir. C'est-à-dire, au fond de l'orchestre, on était debout, on payait pas cher, je me rappelle, c'était 5 francs, ancien. Hein.
Ouais.
Je suis pas issu d'un milieu très, très aisé, donc j'avais pas beaucoup d'argent de poche, et je me payais ça tous les soirs, le promenoir à l'Olympia pour voir Brel tous les soirs sur scène. Ça, c'était aussi un moment qui m'a vraiment marqué. Et puis j'ai vu Amsterdam quand il chantait ça, alors qu'on connaissait pas la chanson. J'ai trouvé ça tellement culotté que moi, un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. Mais moi, je me suis dit, tiens, je vais faire tout un spectacle. Les gens vont pas connaître les chansons. Et j'avais fait La Fabuleuse Histoire de Mr. Swing. Mmh. Au début, les gens ne connaissaient pas les chansons. Et je pense que c'est parce que j'avais été très impressionné par ça. Mais c'était très fort. C'était incroyable. Et puis, j'ai vu Otis Redding, et puis j'ai vu James Brown. Dans les premières fois où il est venu à l'Olympia, James Brown, on a pris une claque. On n'avait jamais vu ça. J'en ai parlé un jour avec Eddie Mitchell qui était là aussi. Je lui ai dit, tu te rappelles James Brown quand il est venu avec son jeu de scène, les Famous Flames, la lumière, le jeu de scène, on n'avait jamais vu ça en France. Et je lui ai dit, tu te rappelles? Et il me disait, oui, je me rappelle. On n'a même pas eu l'énergie d'applaudir tellement on était sidérés. C'est-à-dire que ça, oui, mais ça nous avait mis une claque, quoi. C'était la précision de la chorégraphie, il était balèze, hein, du jeu de scène, de la lumière, etc. James Brown à l'Olympia. Et puis, oui, la tournée Stax, elle est suprême, tout ça, mais Otis Redding, avec Sam and Dave, cette tournée, c'était la tournée Stax, hein. Donc ça aussi, ça a été un souvenir. Et puis, j'ai vu ce fameux spectacle avec les Beatles, avec Sylvie Vartan, avec Trini Lopez.
Et Vassilou.
J'étais là, oui,
ouais.
J'étais là.
Dans un instant, petite leçon de style avec Michel Jonas. Puisque son dernier album s'intitule Rhythm and Soul, j'ai eu envie de connaître la définition justement de soul music. Réponse juste après ça.
Thank you.
Olympia de Paris, Laurent Petit-Guillaume vous retrouve en tête-à-tête avec Michel Jonas.
Sol, 10 de vos classiques que vous avez remaniés dans un esprit soul music. Mmh. Justement, je me suis demandé, on va faire une petite leçon de musique. Finalement, c'est quoi la soul music? Quelle est la différence entre le jazz, le rhythm and blues? C'est difficile ou pas?
Oui, c'est difficile à définir. C'est difficile à définir. Le blues, on peut le définir, on peut dire techniquement que c'est 3 accords, 12 mesures, etc., un certain style, une complainte, on raconte des histoires, etc. Mais comment définir la soul? Voilà, c'est de la musique afro-américaine qui est née après la Seconde Guerre mondiale, hein, dans les années 50, 60. Pour moi, ma référence de la musique soul, c'est Ray Charles. Et donc, je pourrais dire aussi que Ray Charles est un chanteur de blues. On pourrait dire aussi que Ray Charles est un chanteur de rhythm and blues. Mais je pense qu'il a été très important dans cette histoire de musique parce que c'est lui qui a fait le lien entre le sacré et le profane, finalement, puisque vous voyez, le chant, le gospel, c'était très mal vu, ça, de mélanger comme ça les choses. Mais oui, il a mélangé très habilement, ça a été un père fondateur quand même, très habilement, la musique gospel, sacrée, et la musique de la rue, la musique du le rhythm and blues. Donc, pour définir, je me suis confronté à ce problème, la soul music, c'est impossible, pratiquement, techniquement, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Ouais. Mais on a des références. Voilà, on peut citer des gens. On peut se dire que Marvin Gaye, c'est de la soul music, que les labels comme Tamla Motown ou Stax, dans les années 50-60. Le plein essor, ça a été dans les années 60. Ce sont des labels avec les Supremes ou les gens comme ça. Ben, mais Otis Redding, bien sûr, que j'ai vu, d'ailleurs,
à l'Olympia,
ici.
Puisqu'on est à l'Olympia, effectivement, il y a plein de grands noms qui sont passés ici, notamment du jazz, du blues, du rhythm and blues et compagnie. Donc là, cet album, Soul, c'est 10 de vos chansons les plus connues, comme Lucille, Groove, Baby Groove, qui ont été repensées façon Soul Music. C'est-à-dire que finalement, vous avez ajouté quoi? Les musiciens, le réalisateur, qu'est-ce qu'ils ont rajouté?
D'abord, c'est le groupe habituel, celui que, voilà, les arrangeurs sont particulièrement Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché, avec qui nous travaillons sur scène tout le temps et sur les disques. Je peux pas vous dire ce qu'on a rajouté. Il y a des parties qui sont où il y a des fois plus de cuivre, il y a des parties où il y a plus de cordes, où il y a des cordes, etc. On a changé quelques chansons quand même. Le gros avantage, si vous voulez, c'est que c'est pas un best-of. Un best-of, c'est des chansons originales de leur création, qui datent de leur date de création, et qu'on réunit ensemble. Alors ça peut avoir des avantages, ça peut rappeler des souvenirs à des gens. Mais là, c'est des chansons qui sont reliées entre elles par un style, et qui sont très séparées dans le temps, toutes ces chansons-là. En fait, c'est ce qu'on peut faire sur une scène. Sur une scène, je chante des chansons comme Super Nana. Cette chanson a été créée il y a exactement 50 ans. Je le dis d'ailleurs sur scène, puisque c'est la première album de 74. Et puis je chante des chansons des années 2000. Mais sur scène, le lien, c'est les orchestrations et les musiciens. Et donc là, cet album, il y a un lien comme ça qui relie des chansons qui sont séparées dans le temps et qui donne une couleur très particulière et qui sont, oui, inspirées par, effectivement, le rhythm and blues et le blues aussi. Et c'est ça. Comment vous dire ce que c'est que le soul? Je ne peux pas vous dire techniquement, c'est pas possible quoi, de définir.
Vous reprenez joueur de blues avec Ben l'Oncle Soul. Bon, c'est une évidence parce qu'on dit de lui que c'est le soulman français. Comment ça s'est passé cette collaboration? Est-ce que l'un a conseillé l'autre?
Ah non.
Non, nature.
Je pense que c'est Manu Katché qui m'a suggéré. Il m'a dit, Ben l'Oncle Soul. Et moi, je l'aimais beaucoup. Déjà, je l'aime beaucoup. J'aimais bien. J'écoutais. Vous savez, la soul, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la musique de l'âme, si on prend le terme. Et alors là, vu qu'on est à l'Olympia, on pourrait citer beaucoup de gens qui ont exprimé la musique de l'âme. Et donc, je me suis dit, oui, c'est assez évident, parce qu'on a comme une espèce de... Vous savez, je crois que chaque chanteuse et chanteur, on a un rythme intérieur, chacun. On a une pulsion rythmique intérieure. Et je me disais, on est très proche. C'est ce que je me disais avec Claude Nougaro.
Ah oui.
Il y a un truc qui est proche dans la façon de syncoper les phrases, de les articuler, d'être un petit peu ce qu'on appelle, terme de musicien, le fond du temps, c'est-à-dire être bien derrière, bien assis, etc. C'est peut-être ça aussi, la soul. Une espèce de vague rythmique, mais c'est bien assis. Et puis, alors, c'est évident, et je l'ai appelé. Et lui, il était... c'était évident qu'on puisse faire joueur de blues. Et ça l'a botté vraiment, de faire cette chanson-là.
Tu te mets le cambouis sur les mains, ou tu mets le cap sur les yeux. Fais notre destin, ou un bon pain si c'est facile. T'es dans la rue, dans la ville, un Walkman collé sur le nombril. Enfant noir, femme de Toulouse, tous ceux qui chantent I was born to lose.
Joueur de blues,
on est des joueurs. Sous un cerisier, Mère Teresa, frère Luther King. Tu plais ton mal et tu frimes, ou t'attends la mort et tu tues.
chante.
Où est le shérif que je l'assomme?
Belle marquise, maîtrine, belle baronne.
Joueur de blues, c'est bien sûr notre invité aujourd'hui, Michel Jonas, que nous recevions en octobre dernier, juste derrière la mythique scène de l'Olympia, pas loin de la loge. En fait, Michel, il n'a pas connu cette expérience très tôt dans sa carrière. Il nous raconte sa première fois à l'Olympia, dans la suite de ce tête-à-tête, et il sera question de Stone et Chardin, et même c'est Jérôme. Allez, ne changez rien, écoutez plutôt.
Votre radio locale France Bleu devient ici.
Ici, c'est des journalistes et des animateurs qui nous connaissent. Ils sont tous les jours sur le terrain à côté de chez nous.
Ici, une radio à vos côtés pour de vrai.
Ici, c'est l'actu là où elle se passe, là où on la vit.
Vous écoutez ici.
Ici, le média qui vit comme nous, comme nous. Ici.
Ici, partenaire. Fort Boyard, tous les samedis à 21h10 sur France 2 et France.tv. Retournez aux origines du fort. Tout l'été, le Père Foura propose de nombreux classiques revisités, ainsi que de nouvelles épreuves. De quoi surprendre ses invités. Passepartout, Passemuraille, Felindra, le chef ou Willy Revelli, ils seront au rendez-vous. Fort Boyard, présenté par Olivier Mine, ce soir à 21h10 sur France 2 et France.tv. Un événement ici.
ICI.
Toute la journée.
ICI. Actu locale, musique et bonne humeur.
Feel.
l'Olympia de Paris, Laurent Petit-Guillaume vous retrouve en tête-à-tête avec Michel Jonas.
Il a fallu attendre l'an 2000, je crois, pour faire votre premier Olympia.
Oui, c'est possible, vous avez raison. Oui, oui. Je suis pas fort dans les dates, moi.
Non, mais c'est pas grave.
Je me rappelle que le premier Olympia, c'était genre de Musicorama, peut-être. Enfin, je ne sais pas. C'était un soir. Je finissais ce spectacle avec « Je veux pas que tu t'en ailles ». Et on avait fait tomber des confettis sur « Je veux pas que tu t'en ailles ». C'était tout un truc. Mais c'était... Ouais, c'est... Mais je crois que je l'avais fait avant, mais en première partie de... Parce que j'ai fait des premières parties.
Ah ben, comme tout le monde.
Ça s'apprend, le métier de chanteur. Ouais. Ça s'apprend à chaque fois qu'on pose les pieds sur une scène. Hein. Et j'avais été... Donc, vous savez, avant, il y avait cette histoire qu'il n'y a plus beaucoup maintenant. Maintenant, il y a les premières parties et il y a un artiste. Mais avant, il y avait... Levé de rideau, vedette anglaise,
vedette américaine,
vedette, etc. Et j'ai été effectivement levé de rideau, c'est-à-dire le levé de rideau. Le chanteur commençait le spectacle avec deux chansons ou trois chansons, et moi j'étais levé de rideau du spectacle, par exemple, Stone et Chardin. Et je pense qu'on a fait Stone et Chardin ici. Voilà, il y avait C'est Jérôme, Stone et Chardin, etc.
On va parler d'un endroit également qui est très important quand on est dans une salle de concert et quand on est artiste, c'est la loge. Moi, je voudrais savoir à quoi elle ressemble, votre loge, que ce soit celle de l'Olympia ou une autre. Est-ce qu'elle est toujours la même? Est-ce qu'il y a toujours les mêmes objets? Voir des petits gris-gris, des porte-bonheur? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une couleur, un parfum? Est-ce que vous avez cette exigence?
C'est pas une exigence, c'est qu'on a envie d'être dans un peu, même si c'est qu'un soir. Enfin, non, un soir, c'est rapide. Ouais. Quand j'arrive dans un théâtre pour avec un concert et que c'est un soir que je suis dans cette loge, non. C'est-à-dire que ceux qui travaillent avec moi savent que bon, il faut qu'il y ait des fruits secs. Oui, il faut que ce soit propre. Le parfum, ça peut compter. Je suis très sensible aux odeurs. Comme si c'était un petit peu de toi que tu transportes aussi dans une loge. Mais ça, c'est valable quand tu restes un petit peu de temps.
Ouais, j'imagine.
Il y a des loges qui sont plus agréables que d'autres, ça c'est vrai.
Comment on vit ce passage important entre la loge et la scène? Il y a toujours un couloir ici à l'Olympia, il y a un couloir, il y a une glace, etc. Puis on avance, il y a la lumière au loin et on rentre sur scène. Est-ce qu'on change? Est-ce que le Michel de tous les jours se transforme en Michel Jonas avant de rentrer sur scène? Est-ce qu'on sent ça?
Oui.
Est-ce que vous le sentez encore?
Oui, oui. Ah, je le sens toujours.
Physiquement?
Oui, physiquement, parce que la scène, si vous voulez... Moi, j'ai l'impression d'avoir deux vies. Ma vie de tous les jours et ma vie sur scène. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Sur une scène, donc vous parlez de ce moment de transition entre presque deux vies,
c'est-à-dire
deux énergies particulières.
C'est ça.
Sur une scène, le temps, par exemple, ne passe pas de la même manière. C'est plus intense. Vous voyez, c'est plus... Et puis d'abord, il passe pas. On sait pas, on voit pas. Parce que si je ne suis pas dans cet instant présent, c'est une bonne façon de vivre le moment présent, hein, la scène. Parce que si je ne suis pas dans le moment présent, et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai vécu certains moments où j'étais plus dans le moment présent. Et où d'un seul coup, mon esprit partait. Ah tiens, combien de kilomètres je vais faire après le spectacle? J'étais en train de chanter. Est-ce que je vais manger dans quel restaurant? Et là, très vite, je me suis dit, oh là là, là ça va pas du tout. Parce que là, je ne suis plus présent on parle de...
Même oublier les paroles de la chanson.
Non, je n'ai pas vécu souvent ça. J'ai pas vécu souvent, parce que si je ne suis pas dans là... Mais, effectivement, ça peut m'arriver, par exemple, de boire un verre d'eau, puis d'avoir un moment de conscience comme ça qui ne doit pas durer longtemps. Parce que moi, il faut que je sois dans mon texte, dans mes chansons, dans l'intensité d'une chanson. Eh bien, je me dis, je regarde les musiciens, je regarde la scène, je regarde le public, et je me dis, putain, mais... Il n'y a pas un autre endroit où je voudrais être. Et je pense que les artistes disent ça quand ils sont sur scène. Il n'y a pas un autre endroit où je voudrais être. T'as mal au ventre, t'as mal à la tête, ça s'en va. Il n'y a plus rien. T'es fatigué, ça s'en va. Donc il y a quand même un truc, et ça je suis pas le premier ni le dernier à le dire, hein, qui est un petit peu effectivement magique, parce que t'as une espèce d'enthousiasme qui porte. Et s'il n'y a pas cet enthousiasme, il n'y a pas la joie.
Interviewer Michel Jonas dans les coulisses de l'Olympia, c'est être sûr d'avoir beaucoup, beaucoup d'anecdotes, car il y est venu très, très souvent pour voir des concerts d'artistes de légende, même Jacques Brel. Et d'ailleurs, il nous en parle dans un instant.
Je veux bien les larmes et la douleur, je veux bien les doutes. Je veux bien que vivre encore me coûte. Je veux bien la laideur et l'oubli. Je veux bien trembler je veux bien ne plus pouvoir chanter. Il me reste tant de choses à dire, tant de gestes pour te faire sourire. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. J'ai la dent de la mort, je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Je veux voir les enfants, tes enfants, dans des courses folles, et leur parler du bon temps en espagnol. Oh mon Dieu, je ne demande rien, rien qu'un peu de temps dans tes mains. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. J'ai la dent de la mort, je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Et je reste là, oui je reste là. Je me tiens au mien, mes mains ne tremblent pas. Et je reste là, oui je reste là. Je veux t'aimer encore, qu'elle attend de la mort. Je veux t'aimer encore, je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore.
Depuis l'Olympia de Paris, Laurent Petit-Guillaume vous retrouve en tête-à-tête avec Michel Jonas.
On a parlé de l'avant, on a parlé du moment où on est sur scène et où on oublie que le temps passe. Et après, est-ce que quand on sort, parfois au bout de 2-3 rappels, parce qu'on a envie d'y retourner quand même, hein, même Brel l'a fait alors qu'il en faisait... Il faisait ramer des
rappels. Je l'ai rarement vu faire des rappels.
Non, il n'en faisait pas, sauf... lorsqu'il a fait ses adieux.
Ah bah oui.
Il est revenu une demi-heure après.
Il est revenu en peignoir. Oui,
mais en chaussettes.
Oui, mais je m'en rappelle très bien. Bien sûr.
Ah non, vous étiez là pour le dernier concert de Brel ?
Alors ça, je ne me rappelle pas si j'étais là. Ah. Mais je me rappelle très bien de ça. Je pense que j'étais là. Parce que j'y étais tous les soirs, pratiquement.
Oh.
Ah oui, non, mais c'était dingue.
Et vous, quand vous ressortez de ce moment dingue qu'on vit sur scène, il y a une descente ou c'est l'euphorie ?
Non, ce n'est pas l'euphorie. Ça va assez vite. On passe d'un état intérieur à un autre assez rapidement.
Ouais.
Par contre, si je rentre à l'hôtel ou bien si je rentre chez moi, si c'est à Paris, je ne vais pas m'endormir tout de suite.
Oh,
c'est-à-dire qu'il y a eu tu vois, un déclenchement d'euphorie, d'énergie, mais c'est de la joie.
Et l'adrénaline.
Et de l'adrénaline. Mais la clé, c'est de la joie.
Ouais,
c'est-à-dire que là, vraiment, quoi, moi, je me suis programmé pour ça, d'être heureux de chanter, d'être heureux d'écrire, de composer. Parce que le grand danger, c'est la routine. Le grand danger, c'est le devoir. Je dois chanter, ça c'est terrible. Je dois chanter, j'ai un contrat. Ah non, ça c'est terrible.
Donc vous ressortez de scène, vous repartez dans la loge, et puis parfois il y a des gens qui viennent vous féliciter.
Oui,
parfois,
mais c'est toujours c'est très agréable.
Paris. Et est-ce qu'il y a un jour quelqu'un qui est venu vous féliciter et vous êtes dit, waouh, même lui, il vient me dire que c'était bien.
Ben, c'est-à-dire... Oui, ça m'arrive, je peux même pas vous citer des noms, mais ça m'arrive à chaque fois qu'un autre artiste vient pour me dire que ça lui a plu. Ça touche, parce que c'est un collègue, parce que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est d'être sur une scène, etc., ou un comédien, etc. Donc oui, ça me touche à chaque fois.
Je sais pas comment ça se passait après, quand on faisait l'Olympia et qu'il y avait Marilyn, mais je crois qu'on allait boire un coup, qu'on faisait un petit peu la fête ici. Hein.
Oui, on allait boire un coup chez Marilyn, oui, effectivement.
D'ailleurs, Est-ce que, avant d'aller jouer, pas jouer, plutôt chanter, dans une salle de concert comme l'Olympia, il y en a certains qui viennent, on m'a déjà dit, renifler la salle. Ça vous arrive, ça, d'aller d'abord voir la salle vide et d'essayer de la comprendre, de la voir et tout, ou pas du tout? Est-ce que parfois vous arrivez sur des scènes que vous n'avez pas besoin de voir avant?
Non. Non, mais de toute façon, je la vois systématiquement avant.
Oui, elle les répète.
Et il y a ce qu'on appelle le soundcheck, c'est-à-dire que voilà, qui se passe, même si j'arrive le matin ou en début d'après-midi dans une salle de spectacle, je ne sais pas où, et samedi je vais, je sais pas où. Bon, Pamiers. Ben, j'arrive, et puis à 18h, il y a le soundcheck. Donc, je suis sur scène, la salle est vide, je regarde, et tout de suite, oui, on prend, le parfum.
Le parfum?
Oui, le parfum de la salle, et comment ça peut se passer, comment ça doit se passer. Je le fais, mais pas systématiquement, parce que faut avoir du temps pour faire ça.
Les fans de la première heure de Michel Jonas remarqueront de suite que le dessin accompagnant le nouvel album Soul rappelle la photo du premier album sorti il y a tout juste 50 ans. Alors c'est un graffeur qui s'appelle C215 qui a réalisé ce dessin pour vous, Michel.
Oui.
C'est lui qui a eu l'idée ou vous vous êtes dit, tiens, on fait un petit retour en arrière, mais on va relooker.
C'était assez logique, en fait.
Ah, oui.
Je réarrange des anciennes chansons, puisque le sous-titre de cet album qui s'appelle Soul, c'est « Ancienne chanson, nouvelle version
voilà. ».
En fait, voilà. Et donc, effectivement, c'était assez logique de prendre une vieille photo et de la relooker. Et c'est ce qui s'est passé, puisque c'est la photo, ce qu'on lui a envoyé, c'est la photo du tout premier album, où il y avait « Dites-moi » et « Super Nana ». Et moi, j'avais envie de cette couleur un petit peu hippie, vous voyez, des années 60, 70, etc., très colorée, très joyeuse. Parce que je pense qu'il y a quelque chose, et c'est ça qui me semble bien réussi aussi, je suis content de ça dans cet album. Il y a une joie, et c'est-à-dire il y a une énergie qui est joyeuse dans cet album-là. Et ça peut être significatif aussi, une caractéristique de la soul. Pas seulement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ça exprimait des bouleversements sociaux. On était dans les années 50-60, et puis il y avait quand même... ça exprimait, ça parlait de liberté, ça parlait d'injustice, ça parlait d'amour, etc. La chanson est un très beau moyen d'expression.
Il y aura des concerts jusqu'en mars 2026, mais aussi du théâtre et sans doute du cinéma et de la télévision, parce que Michel Jonas déborde de projets. Et pour conclure ce tête-à-tête dans les coulisses de l'Olympia qu'il nous a offert en octobre dernier, il va même nous donner une recette pour ne pas avoir le trac quoi qu'il arrive. Alors au cas où, préparez-vous à noter.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras. También
para nada, para nada me sirve sin ti.
Depuis l'Olympia de Paris, Laurent Petit-Guillaume vous retrouve en tête-à-tête avec Michel Jonas.
Il a le goût et la passion des mots, de la musique. Ça fait des années qu'il les partage avec nous d'album en album. 18 albums studio, 9 live, quelques compilations. Vous savez, c'est des albums qu'on range jamais très très loin parce que lorsqu'on a une envie pressante d'écouter de la musique qui fait du bien, ben, on les retrouve facilement. Est-ce que vous êtes un nostalgique, vous, de tout ça?
Je ne suis pas un nostalgique. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire, mais j'aime bien regarder derrière.
Ouais.
J'aime bien regarder les vieilles photos. J'aime bien regarder, me pencher sur, je sais pas, mais sur mon enfance. Parce que le passé, ça fait partie d'une expérience de vie. Donc, c'est une source d'inspiration très importante quand on écrit des chansons.
Les 10 titres que vous avez réenregistrés sont plus longs parce que vous vouliez pas que ça s'arrête ou
Non.
Plus c'est long, mieux c'est marrant ça.
Oui, c'est
tant
drôle.
Mieux d'ailleurs. Hein.
C'est drôle, mais on avait envie, par exemple, avec Jean-Yves et Manu, de faire des introductions plus longues qui durent un petit peu,
tellement
de
bon.
Se mettre dans l'ambiance, etc. Ouais. Avant que je commence à chanter. Donc ça peut expliquer la longueur des chansons. Et puis il y a des codas effectivement qui sont un petit peu plus longues.
Et est-ce que justement dans ce travail vous avez aussi changer votre façon d'aborder ces chansons, de les chanter?
Eh bien, par la force des choses. Parce que c'était vraiment dans les mains de Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché. Ils avaient une feuille de route à suivre et ils l'ont suivie. Et à partir du moment où moi, j'ai commencé à poser ma voix sur le résultat, eh bien, ça a forcément influencé ma façon de chanter. Ben, par exemple, il y a des exemples comme Lucille qui n'est pas du tout la pareille, voyez, ou Groove Baby Groove, où je n'ai pas le même groove sur certains mots que sur la version originale. Et ça, c'est dû effectivement à l'environnement musical, donc au nouvel arrangement.
Est-ce que ça fait longtemps que vous pensiez à ce projet?
Non.
Qui a eu l'idée, franchement?
Alors, je vais vous expliquer.
C'est un musicien.
Non, c'est une collaboratrice de travail qui travaille avec moi depuis des années, qui s'appelle Caroline. Je voulais faire un nouveau spectacle dans l'année 2025, ce qui va se passer d'ailleurs. Mais je n'avais matériellement pas le temps d'écrire des nouvelles chansons. Pourquoi? À cause du planning. Parce que quand je rentre dans une période d'écriture, il faut que je sois tranquille. C'est une énergie totalement différente de celle dont on a besoin quand je suis sur la scène. Voilà. Et il y avait beaucoup de spectacles tous ces derniers temps, beaucoup de spectacles avec le piano-voix avec Jean-Yves qu'on fait depuis maintenant 11 ans, on en est à la saison 4. Il y avait beaucoup de spectacles avec on a fait un spectacle avec le dernier album Chanter le blues qui voilà, répétition d'une pièce de théâtre qui s'appelle La Famille Samuel Benchetrit. Et donc je n'avais pas le temps.
Ben oui.
Et un jour Caroline me dit: "Et pourquoi tu reprendrais pas des anciennes chansons réarrangées ?" Et voilà, ça a été le départ. Et après, je me suis dit, mais c'est une bonne idée. Pas seulement pour des raisons pratiques, c'est que c'est une très bonne idée de... Vous savez, très souvent, et tous les chanteuses, les chanteurs vous diront là, certainement la même chose, on réécoute des choses qu'on a fait dans le passé. Moi, je réécoute des chansons, je me dis, ah, mais c'est bien, mais si je devais la chanter aujourd'hui, je la chanterais certainement un petit peu autrement. Si je devais l'enregistrer aujourd'hui, certainement que je mettrais un arrangement un petit peu différent. Donc voilà, il y avait beaucoup de raisons. Et de faire un lien entre ces anciennes chansons qui sont, encore une fois, séparées dans le temps.
Mmh. Elle traque?
Non.
Non, vous ne l'avez jamais eu ou...
Si,
vous...
je l'ai eu en 77.
Ah bon?
Je l'ai eu en 77. C'était la première fois que les gens venaient pour moi, alors que j'étais avant en première partie. C'était au Théâtre de la Ville. Novembre 77, 18h30, 19h30, je me rappelle encore.
C'est précis.
Ah oui, non, mais parce que je m'en rappelle, ça m'a marqué. Et un trac me prend. Et je me dis, si je me débarrasse pas de ce trac, je vais me trimballer toute ma vie. Wow. Et j'ai fait un espèce de travail intérieur très 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 rapide, en me disant, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Qui est une tension? Oui, mais qui est un trac? Non, parce que le trac est très relié à la peur. Et la peur, ça paralyse. La peur, ça te coupe de tes moyens. Ça te coupe tes jambes. Tu peux trembler. Je l'ai connu un petit peu. Quand j'ai commencé à jouer la pièce à Brahms, par exemple, où je chantais, où j'étais seul sur scène, cette pièce que j'avais écrite et jouée, je racontais l'histoire de mon grand-père maternel, j'ai eu le trac. Les premières représentations, j'ai eu le trac parce que j'avais jamais fait ça. J'avais pas un piano que je pouvais toucher, un pied de micro que je pouvais toucher, un musicien que je pouvais regarder, rien. Et je chantais tout ça. Donc oui, il y a eu ça. Donc, mais la peur, c'est pas bon, hein. Le trac, c'est-à-dire une espèce de tension qui est là, oui, Mais le trac qui fait peur, ça c'est pas bon. Donc j'ai réussi à m'en débarrasser.
Ah, c'est bien. Voilà. Eh bien merci Michel, merci pour merci ce moment, ce tête-à-tête à l'Olympia.
Ça a été agréable.
Merci Michel.
Merci à toi.
Votre radio ici, c'était Téléphone, ça c'est vraiment toi.
Ici, dès 6h.
Bonjour tout le monde, une nouvelle journée qui commence à vos côtés et pas des moindres, on est le samedi 2 août, c'est le premier week-end du mois d'août, ça fait plaisir avec la belle équipe d'ici matin pour vous accompagner. Nous avons Fred à la réalisation de cette émission et Sarah Saltiel-Rago pour vous informer ce samedi. Bonjour Sarah.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'on a à la une en ce premier week-end d'août?
Eh bien sortez les sandwichs triangles, week-end de chasse et croisée aujourd'hui sur la route.
Et oui, il va y avoir du monde aujourd'hui, une journée classée noire dans le sens des départs par Bison Futé, on en parle tout de suite.
Ici, ICI. Une radio, une appli